Philippe Boisset, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes président de la Fédération de la chasse dans les Hautes-Alpes. La semaine dernière, le tribunal administratif de Marseille a décidé de suspendre partiellement la chasse du tétralyre dans deux des trois zones bioclimatiques du département. Ça représente donc une partie du Briançonnet, le Dévoluy, le Champsaur et le Val-Gonnemar. On aurait pu penser que votre fédération serait vent debout contre cette décision de justice. Il n'en est rien. Au contraire, vous l'avez plutôt salué.
En fait, si vous voulez, c'est une décision plutôt favorable, puisque la seule région bioclimatique qui reste chassable est l'une des plus importantes du département en termes de sociétés de chasse adhérentes. Et en plus, globalement, c'est la première fois qu'on gagnait. Donc, sur ce sujet-là, devant le tribunal administratif, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Alors, vous dites gagner, mais vous avez quand même été condamné à verser des indemnités aux associations plaignantes.
Oui, écoutez, ça, de toute façon, quand on lance des procédures devant un tribunal administratif, forcément, il y a des amendes qui suivent. Donc, mais globalement, par rapport à la décision de notre bonne gestion, qui est liée à notre bonne gestion et au bon niveau de reproduction du tétralyre sur la région, on va dire du haut du département, c'est plutôt une bonne nouvelle et je persiste et je signe, c'est même une très bonne nouvelle.
Vous pensez que le tribunal administratif a pris cette décision pour apaiser les esprits des associations environnementalistes, puisque vous le dites, la région qui reste chassable aujourd'hui est l'une où il y a le plus d'espèces de tétralyre.
Pour apaiser, je ne sais pas, en tout cas, vous savez, les juges, ils sont plutôt sur le factuel, hein. Et donc, nous avons amené des données. Notre avocat, qui est d'ailleurs l'avocat national de la Fédération nationale des chasseurs, a bien donc défendu le dossier. Et en même temps, le représentant de la préfecture, en l'occurrence donc un chef de service de la direction départementale du territoire, a aussi donné des explications du pourquoi cette espèce-là est chassable.
Alors, la justice a quand même mis en avant qu'on chassait trop, entre guillemets, cette espèce, qu'il fallait assurer sa conservation. Moi, j'ai une question. Pourquoi chasser le tétralyre alors que, d'un côté, la justice met en avant que ce galliforme de montagne est dans la catégorie des espèces vulnérables en région PACA et ça vient de l'inventaire national du patrimoine naturel. On a quand même du mal à comprendre un certain paradoxe.
Bon, c'est pas vraiment un paradoxe, si vous voulez. Alors, vous faites référence à l'IUCM, donc l'Institut donc de conservation nationale, donc on en fait partie d'ailleurs, nous, fédération, hein, on donne des données sur cet institut, et il y a une liste rouge, cette fameuse liste rouge dont vous parlez, et la vulnérabilité de cette espèce est plutôt, on va dire, légère, voilà, pour pas dire autre chose, elle est vraiment en dernière ligne de la liste rouge. Donc c'est, l'espèce n'est pas en péril, hein, pour tout vous dire, et le juge n'aurait jamais accepté donc la continuité de la chasse de cette espèce si c'était le cas.
Est-ce qu'il faut se résigner aujourd'hui, Philippe Boisset, à ce qu'il n'y ait jamais aucun dialogue entre les chasseurs et les écologistes?
Aucun dialogue, non, mais moi vous savez, je suis plutôt un homme de dialogue d'ailleurs, et j'essaye de discuter dans des instances où on a la présence des APN, c'est comme ça qu'on les nomme, donc Association de Protection de la Nature. Entre parenthèses, nous sommes aussi une association protectrice de la nature, hein. Paradoxalement encore, puisque vous avez employé ce terme tout à l'heure.
Alors paradoxalement ou pas?
Non, c'est pas paradoxalement, non, parce qu'on est là aussi pour favoriser le développement du tétralyre, on ouvre les milieux, on fait beaucoup d'actions sur ce sujet. Voilà.
Alors, le gouvernement a présenté la semaine dernière son plan chasse avec de nouvelles règles qui doivent voir le jour avant Noël. Certaines pistes sont évoquées, notamment le contrôle de l'alcoolémie. Alors, ce qui a été mis en avant par la ministre, c'est que 9% des accidents sont liés à l'alcool ou aux stupéfiants. Et ça vient de chiffres avancés par le Sénat. Est-ce que vous êtes favorable à cette nouvelle réglementation de contrôler l'alcoolémie?
Écoutez, moi, je rejoins notre président national, M. Willy Schroen, hein, sur le sujet. Il n'y a aucun problème. Hein. Moi, l'alcoolémie et les tests d'alcoolémie, pourquoi pas, hein. Je veux dire, contrairement à ce qu'on peut penser, les chasseurs ne chassent pas imbibés d'alcool et drogués. Hein. Ça, c'est, après 9%, c'est peut-être impressionnant, mais par rapport à ce qui se passe sur les délais routiers, c'est c'est bien en dessous. Hein.
Alors, ce qui était d'ailleurs écrit dans le, oui, dans le rapport du Sénat, ce qui était écrit, c'est que 9% des accidents sont liés à l'alcool ou aux stupéfiants, bien loin de la caricature qu'on se fait du monde de la chasse. Selon vous, aujourd'hui, la chasse pâtit d'une caricature néfaste?
Ben écoutez, je ne sais pas si c'est une caricature. En tout cas, le monde de la chasse est en permanence sur le devant de la scène. Il ne se passe pas une journée sans qu'on ait à nous justifier ou à nous... nous expliquer sur divers problèmes liés à la chasse ou aux accidents ou aux incidents. Sachez que si un incident ça arrive, il y a 1 million de pratiquants, hein, et s'il y en a un ou deux qui dérapent, écoutez, effectivement, on est forcément montré du doigt, et c'est pas normal d'ailleurs, puisqu'on parle jamais de ceux qui chassent et qui ne font aucun et qui ne créent aucun problème. Vous voyez, on est plutôt dans le partage de la nature d'ailleurs. Hein. Chaque fois qu'on est en battue, on explique aux promeneurs ce qui se passe, et ça se passe plutôt bien d'ailleurs.
Ouais, alors ce partage de la nature, justement, il en a été question aussi dans les pistes évoquées par le gouvernement, qui aujourd'hui tablerait sur une interdiction de la chasse une demi-journée par semaine, mais dans les zones périurbaines ou les espaces naturels très fréquentés. Là aussi, cette question, que pensez-vous de cette mesure? Parce qu'au départ, les associations environnementalistes demandaient 1 à 2 journées par semaine d'interdiction de la chasse. Est-ce que là, pour vous, c'est quelque chose où vous allez vous y opposer, ou est-ce que en effet, ça peut se comprendre dans des zones qui sont très fréquentées?
Alors écoutez, dans le département des Hautes-Alpes, je parle de ce que je connais, il y a un jour de non-chasse qui est le vendredi. Hein, donc ça existe déjà. Ben, vous n'avez aucun chasseur le vendredi. Ensuite, vous parlez de nos détracteurs, entre guillemets, et des personnes qui demandent 2 jours de non-chasse, en l'occurrence les week-ends. Si c'est le cas, vous savez, on perd les permis de chasse et il n'y a plus de chasseurs demain dans la nature. Et je crois que c'est leur vœu pieux.
Hein. Et alors, donc, si demain, il n'y a plus de chasseurs dans la nature, quelles conséquences?
Vous pouvez... il peut y avoir plusieurs conséquences. Hein. La première et la plus importante, c'est les dégâts de gibier. Hein. Donc là, il risque de se passer des problématiques à gérer sur le nombre de sangliers qui peuvent détruire des espaces que nos agriculteurs prennent du temps à travailler, hein, donc entre autres, hein, et les cervidés, c'est le même cas. Voilà. Donc je pense que là, on peut laisser libre cours à beaucoup de choses, mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là, hein, effectivement. Moi, je prône plutôt une chasse raisonnable, et ce qui est le cas d'ailleurs dans notre département, il me semble.
Une chasse raisonnable. Donc merci beaucoup, Philippe Boisset, président de la Fédération de la chasse dans les Hautes-Alpes.